À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine avec
Olivier Rollinger, une balade entre ciel et mer.
Cinquième épisode, la révolution délicieuse. Bonsoir Olivier Rollinger.
Bonsoir Caroline. Ouais, je suis triste que ce soit déjà la dernière.
Et nous donc. J'aimerais qu'on parle quand même de ce qu'on mange aujourd'hui, de ce qu'on voudrait manger tous et toutes demain dans cette dernière émission, du contenu de nos assiettes et puis de votre combat pour une alimentation bonne pour toutes et tous. Donc ce combat que vous avez théorisé dans un livre manifeste en 2019 intitulé « Pour une révolution délicieuse ». Terme que vous aviez emprunté, je crois, à Alice Waters, chef cuisinière en Californie, locavore de la première heure, qui se bat depuis 40 ans contre la malbouffe et qui exhorte les jeunes à apprendre les nouvelles habitudes alimentaires. Mmh. C'est de cela que nous allons parler. Et pour commencer, j'aimerais prendre un des thèmes centraux de cet ouvrage, par lequel vous commencez, je crois, qui est la privatisation du vivant par l'agrobusiness.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Oui, c'est-à-dire que à la sortie de la guerre, on a pensé que cuisiner n'avait pas beaucoup d'intérêt et on a confié cet acte de nourrir l'humanité à l'industrie. Or, nourrir, c'est prolonger la vie, mais c'est un acte, j'allais dire solidaire, bien au-delà, c'est un acte d'amour de cuisiner pour l'autre que de nourrir l'autre. Or, lorsque l'on confie cette chose à l'industrie, la finalité de l'industrie, on ne peut pas lui en vouloir, c'est de faire du profit. Mais en voulant faire du profit, eh bien évidemment, c'est d'acheter au plus bas prix toute l'alimentation, donc à ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre ou qui travaillent la mer, et ensuite de leur revendre le plus cher avec des artifices. Et au-delà, c'est le même de vous demander d'oublier de cuisiner, que nous allons cuisiner, nous l'industrie, nous allons cuisiner pour vous. Et qu'est-ce que l'on va mettre comme ingrédient déjà le plus faible? C'est beaucoup de sel, beaucoup de gras, beaucoup de graisse saturée et beaucoup de sucre. Un peu texturant, un peu d'arôme de synthèse, un peu de colorant de synthèse. Et puis le tour est joué, on vous a préparé une jolie recette. Nous sommes fait exproprier de cet acte fondamental que de nourrir. Et il faut absolument sortir des griffes de l'agro-business cette faculté de nourrir les autres. Il faut absolument se réapproprier, se réaccrocher au vivant, se raccrocher à la nature et se rappeler que l'alimentation, c'est un prolongement de la nature pour nous permettre de vivre nous. Nous sommes dans ce grand monde du vivant. Or, qu'est-ce que l'on a vu? Eh bien, on a vu en France, parce qu'il y a deux, trois choses qu'il faut se rappeler. 80% de l'alimentation aujourd'hui est achetée dans les grandes surfaces. Et donc passe à travers 4 centrales d'achat. Qu'est-ce que c'est une centrale d'achat? C'est quelques personnes qui décident, c'est-à-dire, allez, on va dire, une centaine de personnes aujourd'hui qui décident de ce que doit consommer 80% de la population. Ou en tous les cas, 80% de la nourriture de la population française. C'est pas acceptable. Et se rappeler que 70% des marques qui sont présentées, enfin des produits présentés, appartiennent à une vingtaine de marques. Donc c'est tellement réducteur. Alors qu'il y a 450 000 personnes en France qui produisent de l'alimentaire, les pêcheurs, les agriculteurs, les transformateurs. Et puis il y a ce goulet où on doit absolument passer à travers ces... Ça, c'est pas acceptable. Il faut absolument sortir, parce qu'il y a deux... Si vous voulez, il y a quelque chose qui me frappe, moi, c'est que les gens qui produisent de l'alimentaire sont asphyxiés par une forme de low cost. On a voulu toujours leur acheter à moins cher. D'ailleurs, l'argument, lorsque vous écoutez une grande marque de grande surface, la première chose qu'elle vous dit, vous trouvez pas moins cher ailleurs. Comment voulez-vous que les gens qui produisent du lait, qui produisent des choux, qui produisent des volailles, qui ramènent des poissons, puissent réussir à vivre de ce qu'ils produisent, puisque de toute manière, la personne qui vend veut lui dire « je veux absolument que tu me donnes le moins cher ». Ces gens-là n'y arrivent plus du tout. Donc c'est un drame social. Et à la sortie...
Oui, parce que de l'eau à la sortie, les gens n'y arrivent plus non plus, et donc pensent à leur portefeuille.
Et alors le comble, c'est que certains de l'agroalimentaire réussissent à nous dire « grâce à nous, les pauvres peuvent se nourrir ». Mais quelle insulte! Mais comment on peut dire des choses pareilles? Alors qu'on sait très bien que ce sont les gens qui se sont enrichis ces 30 dernières années comme personne. Écoutez, il y a trois constantes, deux variables dans ce système-là. Les deux variables, c'est les producteurs et les consommateurs, que je préfère appeler mangeurs et mangeuses. Dans les trois, il y a trois constantes. Les profits de l'agro-business, les profits des banques qui ont alimenté ce système agricole en particulier, et en trois, les grandes surfaces. Ça, c'est trois constantes de résultats extraordinairement positifs ces 40 dernières années. Ça, c'est la réalité. Par contre, et on est toujours là entre le producteur qui a asphyxié et le consommateur qui, lui, fait yo-yo au niveau des prix. Alors, quelles sont les solutions?
C'est la proximité, la solution, par exemple?
Alors, un, c'est la proximité. On l'a vu, hein, d'ailleurs, pendant le Covid, il y a eu cette formidable solidarité auprès des producteurs. Et puis après, on a eu tendance, les gens sont revenus un peu dans un schéma, pris par le temps, pris par l'habitude. Non, enfin, soyez conscients que c'est pas simplement acheter local, c'est pas simplement acheter français, c'est pas acheter, mais il faut que... Le produit de qualité, le pays France, qui est un pays de cocagne, il faut aider nos paysans, il faut aider nos pêcheurs, il faut être à l'écoute, aller sur les marchés. Il y a des gens merveilleux sur les marchés.
Mais on dit qu'il n'y a plus de marché.
Oui, alors il n'y a plus de marché. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'un marché.
Les gens vont au supermarché parce qu'il n'y a pas de marché à côté de chez eux aussi.
Alors, vous avez raison, moi je milite pour des marchés le samedi et le dimanche. Les gens ont le temps, mais il faut que ce soit un marché tellement joyeux, où on ait de la musique, où les enfants peuvent jouer, où à nouveau on dit que la grande surface est devenue à nouveau un lieu de société. Mais le premier lieu de société, c'est pas une allée marchande. Le premier lieu de société devrait être un marché avec les paysans locaux, avec les producteurs locaux, mais aussi avec quelques artisans, on va prendre des leçons de jardinage, on va apprendre de la musique, il peut y avoir des petites pièces de théâtre, je rêve. Mais par contre, il faut que toutes les municipalités s'engagent à développer ce marché, et avec évidemment du parking, et du parking gratuit. Parce que quand vous imaginez un marché en plein centre-ville où les parkings sont pleins, sont payants, mais qui va y aller? Mais globalement, il faut se rapprocher du local, se rapprocher de la saisonnalité, et puis peut-être aussi imaginer une autre cuisine.
Le deuxième problème soulevé, quand vous dites, Olivier Rollinger, qu'il faut se réapproprier notre cuisine, c'est-à-dire l'affaire, vous militez pour un retour aux cuisines, et pas seulement les femmes, nous avez-vous dit
pas
hier, absolument, même si malheureusement la réalité montre que c'est quand même souvent les femmes qui du coup qui s'y collent.
Non, mais c'est surtout que les
COVID,
hommes.
Mais enfin, c'est tout un travail d'éducation, et justement j'y viens, c'est que pour pouvoir renouer avec la façon de faire, il faudrait rompre avec la fracture générationnelle qui a fait qu'on ne sait plus faire. Il y a toute une génération qui, du fait de cette industrialisation de l'alimentation, a désappris à faire. Oui. Donc il faut réapprendre. Ça passe donc par l'école.
Oui. L'éducation alimentaire est indispensable en France. Nous devrions être le premier. Il y a déjà des pays, je pense en particulier à des pays scandinaves qui sont très en avance. Évidemment, Alice Waters aux États-Unis, aux côtés de Michelle Obama, avait fait avancer énormément les choses. Il y a des gens qui s'investissent, je pense à toute l'équipe autour de Camille Labro, École Comestible, qui vont dans les écoles, même ma fille Mathilde, sur comment éduquer sur les... Mais l'éducation, l'alimentation, l'éducation, c'est la géographie, ce sont les sciences naturelles. C'est comprendre pourquoi un enfant mange cachère et pourquoi l'autre il mange halal. Pourquoi c'est la compréhension du monde. Et puis c'est cette la compréhension du vivant. On peut présenter tous les jeux vidéo aux enfants, mais de prendre une graine, elle est là, on la met un peu d'humidité, un peu de soleil, et tout d'un coup elle va germer. Puis tout d'un coup on va avoir un petit brin d'herbe. Puis tout d'un coup on va avoir une petite plante. Puis on va avoir un petit arbrisseau. Puis tout d'un coup on va avoir un arbre. Mais ça c'est magique. Ça il faut l'expliquer aux enfants. Et que la nourriture, c'est provient du vivant. Et c'est de la joie, c'est du bonheur. C'est un. Vous voyez, moi, cette jeunesse du monde. Je pense que les jeunes parents ont pleinement conscience. Et évidemment que la cuisine de la maternelle, puis du collège, puis du lycée, puis de l'université, bien, soit les travaux pratiques de ce qu'on aura pu apprendre. Mais on va réconcilier la campagne et la ville, on va réconcilier les gens aisés et les gens qui sont le moins aisés, on va réconcilier des communautés entières autour de l'alimentation. C'est une concorde, la table, c'est surtout pas une division. Je ne comprends pas qu'un homme politique ne saisisse pas cette occasion de l'alimentation, en particulier en France, pays qui pourrait être pays du droit de bien manger. Dès qu'on sort des frontières, on dit « Ah oui, vous, la France, vous mangez bien ». C'est quand même le pays où le fast-food font les plus gros profits. C'est quand même, donc il faut pas se leurrer. On est bien souvent à côté. Donc l'éducation, on doit apprendre à nos enfants. Il ne s'agit pas de charger totalement l'éducation nationale et les profs et les institutrices et les instituteurs pour lesquels j'ai le plus grand respect. Parce que un travail doit être fait également dans les familles. Mais justement, s'il n'y a qu'un repas dans ces familles parfois défavorisées qui n'ont pas la chance d'avoir été sensibilisées à les bonnes alimentations, s'il doit y avoir qu'un bon repas, eh bien, il doit être pris à l'école, justement. Et si les parents ont oublié l'importance de cuisiner, de bien s'alimenter, avec cette espèce de rouleau compresseur de marketing et de publicité, dont on est abruti et on est gavé à travers cette alimentation ultra transformée et ultra mauvaise pour la santé de chacun, pour la santé de la planète et pour la santé de notre portefeuille.
Oui, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. La malbouffe est un problème de santé publique.
Bien sûr.
Vous disiez que la France est un pays où le fast-food fait ses plus grands profits. C'est aussi un problème de santé publique.
Et où l'obésité.
L'obésité chez les jeunes, chez les adolescents.
Qui est catastrophique avec toutes les maladies collatérales, que ce soit des diabètes 2, que ce soit des inflammations, que ce soit des problèmes cardiovasculaires. Donc il y a un véritable enjeu. Évidemment de santé publique, mais c'est un enjeu aussi social, c'est un enjeu économique et c'est un enjeu aussi culturel. Parce que la cuisine, elle est belle et elle est bonne lorsqu'elle est métisse. Je m'explique. Depuis la nuit des temps, toutes les cuisines du monde s'enrichissent d'une autre cuisine. C'est ce qui fait, on va dire que chacun garde son identité culinaire, mais au contraire, enrichit à chaque fois son identité culinaire avec celle de l'autre. Et ça, c'est absolument passionnant, regardez. Et la cuisine est le reflet de chaque époque. Et c'est là où, tout d'un coup, on voit bien l'évolution aujourd'hui des cuisines, et en particulier chez les jeunes. Alors, on dit, il ne s'agit pas que chacun devienne végan ou végétarien, ce n'est pas le sujet. Enfin, ce n'est pas que l'on devra, parce que moi, je n'aime pas, mais qu'on aura moins envie de manger de carne, mais par contre, des viandes de meilleure qualité, moins souvent. Et moi, je fais confiance en particulier à cette jeunesse qui fait preuve d'une lucidité, d'une clairvoyance et d'une maturité qui m'étonne tous les jours sur de quelle manière elle souhaite voir évoluer la cuisine qu'elle aime et que sera la belle cuisine demain. Ça, c'est intéressant, surtout pour un cuisinier. Puis en gros, c'est une discussion que j'ai avec tous mes collègues, mais en particulier avec tous mes jeunes collègues. Et toutes ces jeunes femmes aussi, et ces jeunes garçons qui se disent, mais finalement, qu'est-ce que vous voyez comme cuisine demain? Quelle sera cette belle cuisine? Mais la cuisine, elle sera en phase avec les aspirations profondes de nos contemporains. C'est face à ces prises de conscience alimentaire, de santé publique, de santé de la planète, de santé de l'océan, de ces prises de conscience. Mais ça va être merveilleux. Moi, j'aimerais avoir 20 ans pour pouvoir écrire cette cuisine.
C'est pas ennuyeux, parce qu'il y a quand même l'idée être éthique aujourd'hui en cuisine.
Ah, mais il ne s'agit pas de manger que des graines
ennuyeux.
Germées avec trois grains de quinoa, avec un peu de seigle. Non, attendez, là.
J'aime bien comment vous dites ça, parce que les gestes vont avec. Vraiment, mais ça, vraiment, c'est vraiment.
Mais non, mais ça, c'est triste à mourir. D'abord, on pouvait faire tout chanter et danser justement avec ces fameuses épices. Et c'est là justement où moins on a une cuisine carnée, enfin avec des protéines animales, et où on utilise beaucoup de protéines végétales, on a besoin effectivement de mettre moins de sel, moins de sucre, mais peut-être plus de parfums végétaux que sont les épices. Mais surtout, n'allons pas dans le régime, vous n'avez plus le droit de faire ceci, vous n'avez plus le droit de faire cela. Non, au contraire, vous avez tous les droits et tout pouvoir imaginer. Et l'imaginaire est en route dans cette jeunesse. Et moi, j'en parle, moi, des heures entières, en particulier avec mon fils Hugo, sur cette cuisine que lui a déjà mis en place. Puisque, à partir du moment où son restaurant s'appelait Coquillage, on était au-dessus de la baie de Cancale, il me dit, mais pourquoi veux-tu que je mette des animaux à sang chaud sur ma carte? Moi, je suis pas du tout végétarien, mais j'ai pas beaucoup d'inspiration avec ces choses-là.
C'est ce que j'allais vous dire, Olivier Rollin. J'ai peut-être le premier jeune avec qui vous discutez de cela et qui représente cette nouvelle cuisine. C'est celle d'Hugo Rollinger, donc votre fils, qui a aujourd'hui aujourd'hui 2 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, on est en 2022. Il a aussi été le meilleur chef de l'année 2022.
C'est vrai.
Et vous lui avez avez transmis les fourneaux en 2014. Parlez-nous justement de la différence peut-être entre sa cuisine et la vôtre. Est-ce que vous diriez que, alors vous êtes dans les épices, lui travaille plutôt les algues. Est-ce que vous diriez par exemple qu'il est plus radical que vous?
Alors, d'abord,
cette
radicalité
fait partie de la jeunesse aujourd'hui.
Je pense qu'Hugo, il travaille autant les épices, sauf que lui, il est né dedans, il est né avec, on l'a toujours promené, avec, comme Mathilde d'ailleurs, qui elle s'occupe de toutes les épices Rollinger, et en particulier des 1200 petits producteurs. Il est né dedans, donc moi je devais les révéler pour faire comprendre que les épices faisaient partie aussi de la culture culinaire française à travers notre histoire d'aventure maritime. Et lui, il les utilise comme un des mortels utiliserait de la farine et du beurre, quoi. Alors par contre, il a une très très grande connaissance des algues. Alors peut-être parce qu'il passe son temps aussi sur l'eau, ou plutôt à faire du surf. Il est toujours dans l'eau, il a toujours été dans l'eau, Hugo. Et donc, il a le goût du fond de la mer. Il a une connaissance sur la diversité des algues. Il est passionné par l'histoire aussi, la connaissance des Japonais qui ont 2000 ans d'avance sur la notion des algues. Il affine des algues, il a une cave à algues. Et en particulier, moi, il me voyait cabosser la colonne vertébrale de ma cuisine, c'était le bouillon de volaille. Donc, toutes les semaines, on commençait en faisant un bouillon avec, on prenait 5 pauvres volailles, on faisait un bouillon et après, on jetait ces 5 volailles parce qu'on conservait le bouillon, c'était un peu la colonne vertébrale. Et lui dit, moi, tu vois, je suis vraiment très, très mal à l'aise de tuer 5 poules pour faire simplement ce bouillon. En plus, ce sont pas des poules de très, très grande qualité. Elles ont pas été élevées dans les bonnes conditions. Enfin, je suis pas bien du tout avec cette histoire-là. Et la radicalité, c'était de dire, j'arrête tout produit, tout animal à sang chaud dans ma cuisine, donc plus du tout de viande. Et donc, il a commencé à construire, et je veux dire que je suis bluffé, avec un bouillon à la fois de légumes, d'algues et d'épices, qui est absolument exceptionnel, qui va donner cette dimension umami, cette sapidité à l'ensemble de sa cuisine, qui est vraiment la colonne vertébrale. Donc ça, c'est des gestes, ou par exemple, de dire, un jus d'orange et une orange pressée ou un pamplemousse pressé alors qu'on n'est pas en saison des agrumes, ça n'a pas de sens. Quand vous dites ça parfois dans un petit déjeuner, justement dans un relais château où la personne veut absolument son orange pressée ou son pamplemousse pressée, il faut apporter une certaine pédagogie. Et parfois le matin, les gens ne sont pas toujours à l'écoute d'apprendre. Moi, non, je veux mon orange pressée ou je veux mon pamplemousse pressée. Eh bien non, pas dans notre maison. Vous allez avoir le jus de pomme de notre verger. Où vous allez avoir un fruit de saison qui va être pressé ou centrifugé, mais vous n'aurez pas parce que à partir du printemps, il n'y a plus notre producteur d'agrumes corse en bio ne peut plus nous fournir, donc vous n'aurez plus ni d'orange ni pamplemousse. Ça c'est une forme de radicalité. De prendre des poissons justement entre guillemets pas nobles, de travailler du chinchard, de travailler du maquereau.
Pour sortir du saumon et du thon, par exemple.
Pour sortir du saumon, du thon, du cabillaud. Voire de l'anguille aussi. Ces choses-là qui sont vraiment des poissons, voire du bar également qui est bien souvent en danger. Ça sont des vrais sujets. Qui abordent avec, c'est-à-dire qu'ils sont dans le facta non verba, faire et pas parler, c'est-à-dire que, et il me dit, tu comprends, tu dis ça, mais moi je le mets en musique et je le mets en action. Zéro plastique dans la cuisine, par exemple, on supprime, du jour au lendemain, on supprime, et on fait la chasse à tout ça. Évidemment, les composts, les déchets, toutes ces dimensions, l'aborder aussi, la nourriture pour toute l'équipe, qu'est-ce que l'on fait à manger, donc là, la réflexion. Et puis aussi cette chose que lui fait, que moi je faisais pas, je veux dire que là, l'époque a changé, c'est que moi je travaillais en solitaire, j'imaginais Marseille, j'y pensais 6 mois, 1 an avant, j'sortais, j'étais tout seul, je demandais même pas la vie, ni à ma femme, ni à ma mère, ni à qui que ce soit, ni à mon second, je sortais. Lui, il va même jusqu'à aller demander l'avis du stagiaire. Lorsqu'il construit son plat, il va même demander l'avis du petit stagiaire qui est arrivé il y a 8 jours, parce que tout l'intéresse, et il va travailler en collectif, et il va le faire en collectif. Chapeau, moi, je savais pas le faire. Mais c'est cette jeunesse aujourd'hui qui prend tellement bien... Ils s'engagent pas en politique, tous ces jeunes. Et pourtant, allez-y, mais ils ont les clés localement, individuellement. Il y a des clés absolument merveilleuses partout sur le territoire français, européen et à l'international, dans le monde entier. Cette prise de conscience alimentaire, elle est là. Et il suffit de la mettre en musique. Parfois, quand je dis je fais de la politique, oui, j'aimerais faire de la politique pour simplement pousser tous les politiques, quelle que soit leur casquette, quelle que soit leur couleur. Ayez l'audace, allez-y. La jeunesse est prête. La jeunesse est prête, mais essayez d'écouter-la, comprenez-la. Nous, on doit. Vous savez, quand il nous dit ils ont osé nous défier. Mais ils ont tellement eu raison, à nous de les écouter et à leur transmettre tout simplement tout ce que nous savons. Mais c'est pas du tout dans un conflit, au contraire. Moi, il m'émerveille et cette transition, cette époque est extraordinairement excitante. Nous vivons le début d'une renaissance. Et alors à toutes celles et tous ceux qui vous diront, mais tout ça c'est de l'utopie, que les gens cuisinent, que l'on abandonne l'agro-business, que l'éducation alimentaire puisse se faire, que les choses se feront. N'oubliez pas, par exemple, John Fitzgerald Kennedy.
Il y en a qui pensent ça, en effet, pardon de vous interrompre, il y en a qui pensent ça aussi, il y en a aussi qui pensent que c'est une régression. Que c'est revenir à avant.
Ah, mais pas du tout, parce qu'entre temps,
il y a eu. Avec ce que ça suppose, justement.
Mais par exemple, prenons l'agriculture, ou l'aquaculture, ou la culture des algues, ou la nourriture, ça va se nourrir d'algues, l'agroforesterie, lorsqu'on discute avec tous ces hommes et ces femmes de Confédération Paysanne, tout ça, c'est surtout pas un retour en arrière. Je pense qu'il y a eu une connaissance du vivant. Aujourd'hui, par exemple, une agriculture biologique, c'est surtout pas. Une culture d'avant-guerre. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, dans le vin nature. Tout le monde avait dit, les vins de France, les grands vins de France, vont être à la rue parce qu'il y a tous ces vins du Nouveau Monde. Les vins californiens, d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Chili, et j'en passe. Mais aujourd'hui, le renouveau du vignoble français, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont renversé la table de l'INAO, et qui aujourd'hui font des vins en biodynamie, des vins nature, et qui aujourd'hui sont prisés à Ginza à Tokyo, à Copenhague, à San Francisco, à New York. Les grands vins de France, c'est souvent des vins de table aujourd'hui. Mais quel espoir dans le monde agricole, qui ont dit, nous, on ne veut plus ces concentrations de pesticides, d'herbicides, d'insecticides, on veut pas faire des vins... Des vins conventionnels, oui, des vins conventionnels, c'était des vins conventionnels, mais c'était pas des vins en fer comme on faisait avant-guerre. On a appris beaucoup aujourd'hui comment maîtriser le vivant, mais faire avec le vivant et pas en tuant le vivant.
Il n'était pas dit, Olivier Rollinger, que Mathilde et Hugo, vos enfants, reprennent le flambeau familial,
hein, oui,
c'est-à-dire
pas du tout.
Hugo pour la cuisine et Mathilde pour les épices. Mathilde se destinait à une carrière, elle avait déjà commencé d'avocate internationale. Hugo se destinait lui à la marine marchande. Mmh. Et puis revirement de l'un et de l'autre, les voilà l'un dans les épices, l'autre dans la cuisine, travaillant ensemble en famille. Vous travaillez d'ailleurs dans la famille Rollinger tous ensemble. C'est une bonne nouvelle pour vous?
Ah non, mais c'est plus qu'une belle nouvelle. Vous avez l'impression que toutes les belles étoiles s'alignent. C'est-à-dire que je crois que lorsque les uns les autres, parce qu'il n'y a surtout pas de règles, lorsqu'on a des enfants, on essaye d'élever et d'éduquer des enfants, on essaye finalement, alors ça doit surtout pas être le prolongement de soi-même, parce que justement, nous, on a voulu totalement, avec Jane, écarter les enfants de nos passions, qui étaient la cuisine, qui étaient l'hébergement, qui étaient ces maisons, d'accueillir dans des maisons. Donc, l'une fait une carrière d'avocate internationale, de droit des affaires, droit de l'art, remarquable. Mathilde, entre Paris, travaille sur Londres également. Hugo, lui, l'école du Havre, marine marchande, officier de la marine marchande, tout va bien. Et puis, brutalement, Hugo dit, jour de mon anniversaire, je commence avec ou sans toi la cuisine. Et là, j'envoie chez les vieux copains, Michel Guérard, Trois Gros, Bras, Gagnère, pour le dégoûter totalement. J'y arrive pas. Il va passer un CAP comme moi.
Ah oui, mais pourquoi le dégoûter?
Parce que pourquoi le dégoûter dans un premier temps? Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que se faire un nom, c'est une chose, dans quelques domaines que ce soit, se faire un prénom, c'est encore plus dur. parce que c'est le fils à papa, il est né avec une cuillère en argent, tout était sur un plat. Se faire un prénom, c'est très très dur, quel que soit, probablement dans l'univers du journalisme, mais dans l'univers d'un libraire, dans l'univers d'un garagiste, dans l'univers, peu importe, c'est toujours difficile de se faire un prénom derrière. Je veux dire qu'on n'a rien sacrifié. Enfin, Jane a sacrifié des choses. Elle a sacrifié des moments de moments de vie de famille, des moments de une vie sociale. Peut-être qu'on est peut-être passé à côté de certaines choses avec absolument aucun regret. Mais néanmoins, c'est pas rien. Enfin, c'est pas un métier comme. Enfin, c'est un métier. C'est une vie. Voilà. C'est une vie. Et on s'est dit, oh là là. Et surtout Jane ne voulait absolument pas. Elle préférait voir commandant, capitaine de long cours. C'était beaucoup plus flatteur pour une maman. Et puis Mathilde, elle, à la demande de son frère, alors par contre, là, j'ai explosé de joie parce que je savais que là, il y a un avion de chasse qui allait rentrer dans la maison. Je ne pouvais pas imaginer parce que c'est une femme d'une rigueur, d'une exigence, mais passionnée. Et je lui disais, oui, en fait, lorsqu'on élève des enfants, il n'y a pas de règles, mais on essaie de leur façonner des souliers pour qu'ils puissent marcher vers leurs rêves. Je dis bien, on essaie de leur modeler des souliers pour qu'ils puissent marcher vers leurs rêves. Mais lorsque un de ses rêves vient de rejoindre un des vôtres, alors là, c'est merveilleux. Là, vous devenez à nouveau immortel. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis... Parce que vous ne laissez pas simplement une trace. Il y a vraiment... Et puis, en plus, Marine, la femme d'Hugo, également avocate, vient la rejoindre dans cette aventure pour prendre la place de Jane. Et en plus, un gendre merveilleux qui est évidemment, qui est lui aussi juriste et qui vient nous ouvrir cette fenêtre extraordinaire sur l'art contemporain en ouvrant sa galerie à nos portes. Mais quel bonheur! Donc là.
Il ne faut jamais désespérer de rien.
Il ne faut jamais désespérer de rien. Et puis les enfants, c'est ces flèches qui partent. Moi, je regarde. Et puis tous mes autres enfants qui sont tous ces jeunes et qui travaillent dans la maison, qui travaillent dans les jardins, qui travaillent pour le linge, qui travaillent pour le ménage, qui travaillent en chambre, qui sont tout ça. Moi, j'ai, vous savez, parfois dans un chef d'entreprise, on dit la pire des choses, ce sont les salariés, c'est le personnel. Mais c'est la plus belle aventure parce que là, c'est un orchestre, c'est une compagnie de théâtre et c'est l'aventure humaine de faire simplement une chose. Créer des petits bonheurs pour des gens qui viennent franchir le seuil de notre porte. Mais ce petit bonheur, vous ne pouvez rien faire tout seul. Ce n'est pas une famille simplement qui peut le faire. C'est cet orchestre et cette grande famille des maisons de Bricourt.
Merci beaucoup, Olivier Rollinger, pour ces entretiens.
Merci infiniment. Passez une semaine merveilleuse en votre compagnie. Puis parfois être obligé de dire, je voudrais vous dire encore mille choses, mais enfin... J'ai envie surtout de vous dire vive la vie et vive la révolution délicieuse.
Merci à vous. C'était À Voix Nue avec Olivier Rollinger. Chargé de programme, Daphné Abgral. Prise de son, Stéphane Foulon. Réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.